France Culture.
Et on reprend le voyage des Midi de Culture. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. À 13h, comme promis, je recevrai Maud Lubeck et Clotilde M pour parler du spectacle privé SVP. Mais tout de suite, place au point culture de Sophie-Catherine Gallet. Bonjour Sophie-Catherine.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. À partir de demain s'ouvre le week-end dédié à la culture et à l'intelligence artificielle. Alors plusieurs menaces pèsent sur le secteur culturel, mais peut-il y avoir aussi des avancées positives grâce à cette technologie? Un point sur ce que l'IA permet dans le domaine de l'archéologie, c'est notre dossier du jour. Thomas Sagori, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable numérique au Musée d'archéologie nationale, vous êtes également archéologue. Alors, il y a plusieurs utilisations possibles de l'IA, l'intelligence artificielle en archéologie, et celle qui est peut-être la plus parlante pour les novices, c'est la génération d'images qui permet de reconstituer des sites, des lieux qui évidemment n'existent plus. Dans ces reconstitutions, est-ce que l'intérêt est avant tout pédagogique peut-être, ou est-ce que ça permet quand même également des découvertes archéologiques, des avancées dans la recherche?
Alors, dans la démarche archéologique, hein, un archéologue, il est sur le terrain, il est dans une activité qui est un petit peu particulière, puisque pour comprendre le site qu'il étudie, il est obligé d'intervenir, de détruire, de creuser finalement. Et dans cette démarche, il doit documenter de la façon la plus précise possible le travail qu'il est en train d'effectuer. Et c'est pour cela que les archéologues ont très vite pris le tournant de la numérisation 3D et sont en train, à l'heure actuelle, de se saisir de ce nouvel outil formidable qu'est l'intelligence artificielle, puisqu'elle permet justement de traiter des données de masse et de venir compléter ces données accumulées sur le terrain, notamment ces données 3D, pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions de recherche, mais aussi tirer le fil, donc d'aller du terrain archéologique, du site patrimonial, jusqu'au public, en utilisant tout ce que le numérique nous rend possible à l'heure actuelle.
Et les images qu'on peut trouver justement sur Internet de reconstitution de sites historiques semblent parfois très belle, très, très propre aussi, peut-être presque un peu irréelle. Et quand on lit un peu autour de ces questions, il y a un concept qui revient, qui est le concept d'hyper-réalité, qui engendrerait en fait un remplacement de la réalité par l'imaginaire. Alors, est-ce qu'il y aurait aussi un risque de tomber dans l'idéalisation du passé avec, par exemple, ces reconstitutions-là d'images?
Alors, le travail de restitution pour les archéologues est un exercice assez complexe, mais aussi passionnant. Et justement, cette question de l'hyperréalisme, elle doit être posée dès la phase de réflexion. On sait le poids, l'impact des images sur nos imaginaires d'êtres humains. Et le fait de pousser l'hyperréalisme sur une restitution engage le chercheur. C'est-à-dire que si on pousse l'hyperréalisme trop loin et que l'on a tendance à idéaliser ou à optimiser de façon trop précise certaines choses, bien en fait parfois on se décale de la nature du site que l'on étudie. Et donc on a parfois dans le traitement des données plutôt recours à une restitution qui va être plutôt de l'ordre de l'évocation. On va parfois utiliser un rendu plus proche du croquis. Et ça justement dans la démarche de médiation et quand on cherche à rendre compte d'un état de la connaissance, le modèle 3D, il va aussi être le reflet d'un état de la connaissance à un instant T. Et donc, le rendre ou s'appuyer, se tourner vers l'hyper-réalité, c'est donner l'illusion qu'on est sûr de tout, de toutes les hypothèses, de tout ce que l'on a représenté. Et donc là, il y a une forme de prudence, et en tout cas du côté des chercheurs, des archéologues, mais aussi des professionnels des musées, on est extrêmement vigilant et à essayer d'avoir recours à cet hyper-réalisme lorsqu'il correspond à des données fiables et suffisantes pour aller jusque-là. Sinon, on est parfois plus prudent. Donc, c'est ce qui explique que certaines restitutions sont partielles, qu'on peut jouer sur de la transparence. Et là, après, on fait appel à des directeurs artistiques pour essayer justement de trouver la bonne solution, de mettre en image ces hypothèses et ces questions que l'on se pose.
Alors, pour aller sur un tout autre sujet, on entendait parler, ça reste quand même dans le même sujet de l'intelligence artificielle, mais on entendait parler donc l'an dernier d'une découverte qui était permise grâce à l'IA, qui est assez fascinante, des papyrus brûlés dans l'incendie d'Herculanum suite à l'explosion du volcan de Pompéi. Des papyrus qui n'avaient jamais pu être déroulés, car ils seraient tombés en miettes, ont pu être lus, permettant de découvrir un texte philosophique inédit, donc évidemment de plus de 2000 ans. Alors, comment cette découverte a été possible? Quel type d'IA était à l'œuvre ici?
Alors là, c'est effectivement un exemple assez passionnant, assez stimulant aussi, c'est-à-dire comment étudier des objets qu'on pensait perdus pour l'humanité. En fait, ça a été rendu possible par cette chaîne d'avancée, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une numérisation, un scan en fait, qui a été mené de ces rouleaux, hein, donc qui sont extrêmement et qui sont complètement enroulés sur eux-mêmes, qui ont brûlé. Et en fait, de cette numérisation extrêmement précise, les équipes de recherche ont pu effectuer un déroulé à partir du modèle 3D. Et c'est là, donc dans un second temps, que ce recours à l'intelligence artificielle est intervenu, puisqu'une fois que les papyrus ont été déroulés, la question c'était de réussir à identifier, donc à analyser ces images. Et là, on est sur un support, un parchemin qui est connu, avec une encre, même si elle était très difficilement lisible, que l'on pouvait identifier. Et là, le recours à l'IA a consisté à entraîner un réseau de neurones en s'appuyant sur d'autres parchemins, d'autres éléments que l'on connaissait similaires, entraînés dans une logique d'apprentissage, comme un humain qui souhaiterait apprendre, même si là on a affaire à une machine. Et en fait, cette démarche s'est inscrite dans une logique de concours. Donc il y a trois chercheurs qui se sont prêtés à ce jeu et qui ont proposé un algorithme. Donc là, on est vraiment sur un travail d'adaptation et de mise en forme d'une solution, d'une équation mathématique finalement, mais qui prend forme dans cette intelligence artificielle et qui ne fonctionne que si elle est entraînée sur des données qui correspondent aux résultats que l'on souhaite obtenir. Et donc il y a un côté comme ça presque artisanal dans la démarche, mais qui a permis donc de déchiffrer un certain nombre de textes, hein, 15 colonnes de texte, hein, ça couvre à peu près 2000 caractères, mais c'est que 5% de ce rouleau. Et donc là, ça laisse une idée aussi de la perspective. Et donc là, il y a d'autres challenges qui sont lancés, hein, c'est le Vesuvius Challenge, qui sont lancés et qui viennent en complément de travaux de recherche sur plus de 20 ans, hein, de la part d'un chercheur de l'université de Kentucky. Donc là, c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a une forme de continuité et puis de transmission. Un chercheur qui va travailler pendant 10, 20, 30 ans sur un site, eh ben, va parfois pouvoir bénéficier d'une avancée technique qui va lui permettre de porter un éclairage nouveau, en l'occurrence, de plonger dans le quotidien. On est même sur des contenus qui parlent de la manière dont l'abondance ou la pénurie peuvent affecter le plaisir. Alors, on parle de musique, de nourriture. Donc, c'est là, on touche au quotidien de la vie d'Herculanum, avant la destruction par le Vésuve.
Ouais, ça ouvre de vraies pistes de réflexion historique sur quelles étaient ces sociétés. Mais justement, est-ce que l'IA, au fond, vient pallier des problèmes techniques, permet d'économiser du temps aussi, mais est-ce que ces systèmes seraient par exemple en capacité de formuler des hypothèses justement sur la société dont on découvre ces papyrus ?
La particularité et la façon dont sont conçus les outils d'intelligence artificielle, en particulier ceux qu'on dit d'intelligence artificielle générative, c'est de nous apporter une réponse. Ils sont prévus pour ça, ils auront toujours une réponse à nous apporter. La question, c'est la validité, la valeur de cette réponse. Et donc là, en tant que chercheur et dans le domaine de l'archéologie ou du patrimoine, il faut qu'on anticipe dans nos pratiques le type de questions qu'on va leur poser et surtout qu'on les questionne, qu'on y apporte un esprit critique. Donc cet aspect-là, là, ça s'est vraiment lié à l'aspect de l'IA générative. En archéologie et dans le patrimoine, on utilise davantage l'IA comme soutien à nos développements, c'est-à-dire en complément de la numérisation 3D. Numériser un objet brillant, numériser un objet transparent, ça pose actuellement des difficultés si on applique les protocoles de numérisation 3D classiques. Par contre, aller chercher l'IA, aller former l'IA à la compréhension de signaux qu'on va avoir du mal à interpréter avec les procédés habituels, là, ça permet de gagner du temps et d'obtenir des résultats qui ensuite peuvent générer tout un tas d'autres solutions. Donc du coup, l'intelligence artificielle, elle a plusieurs formes et au sein des projets de recherche, on va aller chercher celui qui répond le mieux aux objectifs de recherche. Ça, c'est vraiment un élément clé de nos métiers et de nos démarches actuelles.
Merci Thomas Sagori. Et pour continuer sur le sujet, à 13h30, les Pieds sur Terre vous proposeront une émission expérimentale avec des témoignages entièrement réalisés par un outil d'IA développé au sein de la direction du numérique de Radio France.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, l'éviction de la directrice des Beaux-Arts de Paris crée des remous.
Oui, son premier mandat prendra fin le 1er mars prochain et le ministère de la Culture a d'ores et déjà annoncé cette semaine qu'Alexia Fabre ne serait pas reconduite à la tête de l'école. Une décision unanimement critiquée par les syndicats, les professeurs et les étudiants de l'établissement qui dénoncent une sanction déguisée à l'encontre de leur directrice. Cette dernière ne s'était en effet pas opposée aux manifestations débutées fin 2024 contre le projet de fusion des Beaux-Arts avec l'école d'architecture Paris-Malaquais.
Et pour finir, Sophie Catherine, une idée de sortie pour ce week-end.
Oui, débute demain au 19M à Paris, la troisième édition de Mains d'Avenir, un événement gratuit consacré au métier d'art de la mode. Il sera ainsi possible, durant deux jours, de venir découvrir des savoir-faire artisanaux d'exception, comme la chapellerie, la botterie ou encore la broderie, mais aussi d'assister à différentes tables rondes et de s'informer sur les possibilités d'emploi et de formation. Vous pouvez retrouver le programme complet sur la page de l'émission.
Merci Sophie Catherine, on se retrouve lundi pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.